Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et le moment est venu de retrouver Franck Ferrand qui nous parle aujourd'hui d'un personnage oublié de l'histoire. Bonjour Franck.
Bonjour Fatima, bonjour à tous. Si j'ai choisi d'évoquer aujourd'hui le grand dauphin, fils de Louis XIV, c'est parce qu'on va fêter lundi le 350e anniversaire de sa naissance, le jour de la Toussaint de l'an 1661.
Et je crois savoir que vous aviez d'abord intitulé cette émission « Monseigneur, fils de roi, père de roi, mais jamais roi ».
Eh bien oui, Monseigneur c'était le nom qu'on lui donnait à la cour. Il était bien le fils du roi de France Louis XIV et le père d'un roi d'Espagne, Philippe V, mais lui n'a jamais régné. Si ce n'est sur les arts tout de même, un peu, et puis sur le cœur des Parisiennes, mais ça c'est un autre sujet.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Il y a parmi les merveilles de la collection Wallace à Londres un tableau merveilleux, un tableau de l'argilière qui représente un Louis XIV déjà âgé, entouré de ses descendants mâles. Le vieux roi est assis majestueusement sur un fauteuil. Derrière lui, son fils, le grand dauphin, est accoudé au dossier du fauteuil. À sa gauche, son petit-fils aîné, le duc de Bourgogne, debout, tout en rouge. Et puis à sa droite, son arrière-petit-fils encore tout enfant, tenu en lisière par sa gouvernante. Le grand dauphin, qu'on appelle Monseigneur à la cour, se reconnaît facilement sur ce tableau comme sur les autres. Il se reconnaît d'abord à sa corpulence, à l'énorme perruque blanche qu'il arbore en toute occasion, et puis à cet air là, vaguement ennuyé, qu'il a tendance à promener partout. Monseigneur était né à Fontainebleau, à la Toussaint 1661, c'est-à-dire l'année même où commençait le règne personnel de son père. Il est le fils unique de Louis XIV. Quand je dis unique, en tout cas, il est le seul qui soit né d'une union légitime. Le moins qu'on puisse dire est qu'il n'a pas laissé dans l'histoire une trace inoubliable. Fils de roi, et de quel roi ? Père de roi, comme il le disait lui-même, puisque son deuxième fils, le duc d'Anjou, finira sur le trône d'Espagne, c'est un personnage éclipsé. C'est un prince de transition sur le sort duquel nous nous penchons aujourd'hui. Alors évidemment, être le fils unique de Louis XIV constitue en soi un défi assez terrible, surtout lorsqu'on n'a pour soi ni le physique, ni vraiment l'esprit. Voici, en tout cas, dans ses jeunes années, un gros garçon volontiers lourdeau, pas très élancé et qui, joint à un visage assez quelconque, un tempérament taciturne. Même les courtisans les plus flatteurs, et je vous prie de croire qu'autour de Louis XIV, ils ne font pas défaut, même eux ne trouvent rien de bien aimable à dire du grand dauphin. On prétendra qu'il détecte les ridicules mieux que quiconque. On admettra qu'il chasse le loup mieux que personne. Ah ça, c'est un fait, au point même de faire disparaître l'espèce du domaine royal. On reconnaîtra son goût pour les objets d'art, un goût très sûr, qui va lui permettre de constituer la plus exceptionnelle des collections, plus belles, dit-on, que celle du roi lui-même. Pour le reste, eh bien, pour le reste, difficile de discerner de très haute qualité chez ce prince effacé, visiblement écrasé par la personnalité de son père. Écrasé aussi peut-être par une éducation d'une rigueur, d'une dureté sans exemple. Le gouverneur du prince, M. de Montausier, peut être regardé comme une espèce de brute, multipliant les châtiments corporels, étouffant son élève sous une quantité d'interdits, de défenses, d'obligations, de contraintes continuelles. Il est certain que, sur la nature déjà sans doute ingrate de Monseigneur, un tel traitement a produit de mauvais effets. Certes, l'enfant royal avait pour précepteur Bossuet en personne, mais les plus grands esprits sont souvent impuissants, confrontés à l'intelligence moyenne, voire médiocre, d'un élève, on disait à l'époque embarrassé, nous dirions-nous aujourd'hui, bourré de complexes. Presque toujours, le jeune dauphin se réfugie dans un silence obstiné, au point que certains prétendent à la cour n'avoir jamais entendu le son de sa voix. Dès qu'il a eu 19 ans, cet enfant a été pris en main par son père. Louis XIV s'est chargé de trouver une épouse à son fils. Oh, elle était loin d'être belle. Certains disaient même qu'elle avait le nez le plus disgracieux du monde, mais du moins elle était la sœur de l'électeur de Bavière, ce qui faisait les affaires de la cour de France. On n'a pas demandé à Monseigneur son avis. On l'a mariée à Marianne Victoire de Bavière, qui lui donnera 3 fils avant de s'éteindre à peine 10 ans plus tard, complètement épuisée. Nous verrons tout à l'heure que ce prince tellement effacé à Versailles, où la présence du roi son père le tétanise, que ce prince bénéficie en revanche à Paris d'une réelle popularité. Les femmes de la Halle notamment ne manquent jamais une occasion de le fêter, de l'applaudir, et Monseigneur montre envers le petit peuple une affection que la plupart des princes de sa branche auraient trouvée aberrante. Pour se retirer du monde et jouir d'une solitude relative, le grand dauphin s'est fait aménager à Meudon, une jolie demeure que son père, non sans mépris, a considérée comme la maison d'un riche financier. C'est pourtant un bel endroit, totalement défiguré par la suite, notamment lors du siège de 1871, mais aujourd'hui encore, les nobles lignes de l'édifice, ce qu'il en reste en tout cas, donnent une idée flatteuse du séjour préféré du grand dauphin. Je vais vous dire, d'une façon générale, plus on s'approche de la figure très estompé de ce prince, plus on étudie tout ce qui se rapporte à lui et plus on serait tenté de redresser son image. Et ce que je dis est vrai sans doute aussi pour la femme qui a partagé sa maturité et dont l'histoire n'a pas retenu grand-chose de bon.
Franck Ferrand sur Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Et aujourd'hui, le récit de la vie de celui qui n'a pas eu l'occasion de marquer l'histoire de son règne, fils et père de roi, et ne l'a lui-même jamais été, c'est le grand dauphin avec Franck Ferrand.
Oui, ce grand dauphin qu'à la cour on appelait Monseigneur. Alors, peu après la mort de sa femme, dans les années 1690, Monseigneur va s'enticher d'une des demoiselles d'honneur de la princesse de Conti. On se dit à ce moment-là que le moment est venu pour lui de se rattraper. On imagine la demoiselle charmante, pleine d'attrait. Eh bien, pas du tout, si l'on en croit Saint-Simon. C'était, je le cite, « une grosse fille écrasée, brune, laide, camarde ». Et la princesse palatine complète ce beau portrait. « Petite », écrit-elle, « avec de petites jambes, un visage tout rond, une grande, grande bouche remplie de dents pourries qui répandait une telle puanteur qu'on pouvait la sentir à l'autre bout de la chambre ». J'hésitais à vous lire cette phrase, mais après tout, c'est la princesse palatine qui l'écrit. Le plus drôle, c'est que la pauvre fille porte le nom de Jolie. Oui, elle est la fille du baron Jolie de Chouin. La cour de Versailles est impitoyable et d'emblée, on l'appellera la Chouin. Je cite Gosselin le Nôtre. Comme Monseigneur ne ressemblait à personne et déconcerté par les lubies les plus perspicaces, il parut prendre plaisir à regarder la grotesque créature que toute la cour dédaignait, et l'on s'avisa bientôt que son goût pour cet objet d'horreur affectait les allures du grand amour. On supposa d'abord que le prince était séduit par l'énorme poitrine de cette fille repoussante, car la nature, si avare pour elle sur d'autres points, l'avait pourvue de volumineuses protubérances sur lesquelles familièrement Monseigneur tapait comme sur des timbales. Mais quand on ne put douter que le futur roi de France ne quittait plus la demoiselle d'honneur et qu'elle prenait sur lui une marquante influence, il fallut bien découvrir d'autres attraits au laideron jusqu'alors dénigré. On s'accorda à lui trouver beaucoup de bon sens et d'esprit et un talent de conversation sans pareil. Disons clairement les choses, pour les courtisans, la Chouin, c'est une maintenant en puissance. Et c'est à ce titre que tout le monde va se mettre à l'aménager, voire même parfois à la courtiser. Les bruits les plus flatteurs se mettent dès lors à courir sur sa vertu, sur la droiture qui l'incite à quitter la cour. Elle ne veut en aucun cas jouer ici un mauvais rôle. Le grand dauphin la loge dans un premier temps à Paris, rue Saint-Antoine, mais il ne tarde pas à la faire venir à Meudon. Il la fait venir en grand secret et si l'on en croit un mémorialiste du règne, elle s'y rend d'abord de nuit en voiture de louage et traverse les cours à pied, vêtue comme une femme du commun. On lui ouvre un entresol où Monseigneur passe avec elle quelques heures. Un garçon du château lui apporte à manger. Mais à la cour, de même que l'argent n'a pas d'odeur, les favorites n'ont pas d'haleine, bientôt les courtisans vont se presser sur le passage de celle qui, le roi vieillissant, pourrait un jour devenir, oh, sinon la reine, du moins l'épouse morganatique du nouveau roi. Elle pourrait bien devenir la nouvelle maintenant. À la différence de Monseigneur, Mademoiselle de Choin n'a pas sa langue dans sa poche. Elle parle haut et fort, elle fait preuve d'autorité, elle paraît informée avant tout le monde de la moindre nouvelle. D'où lui vient tant d'assurance? Eh bien, certains, et c'était le cas du grand historien Georges Mongrédien, pensent qu'elle avait réussi à épouser Monseigneur dans le plus grand secret. Il prétend même qu'un fils beau comme le jour, dit-il, serait né de cette union. Ce fils est mort à Meudon 2 ans plus tard. À la mort du grand dauphin, la Choin, pourvue d'une pension de 12 000 livres sur la cassette royale, se retirera rue des Tournelles à Paris pour se consacrer à des œuvres pieuses. Elle tombera bientôt dans l'oubli et ne mourra qu'en 1732, oubliée de tous, à commencer par ses courtisans qui, un temps, l'avaient fêtée à l'égal d'une reine.
Les Folies de Cardenio, composée par Michel Richard de Lalande.
Alors, les circonstances de la mort du grand dauphin ont fait l'objet de bien des relations, et notamment d'une relation très détaillée de la part du célèbre duc de Saint-Simon. Ce sont peut-être ses pages les plus célèbres, et je ne résiste pas évidemment au plaisir de vous en lire ici quelques extraits. « Monseigneur se trouva au plus mal vers 4 heures après midi, écrit Saint-Simon. Le médecin Fagon et les autres entassèrent remède sur remède sans en attendre l'effet. Le curé, qui tous les soirs, avant de se retirer chez lui, allait savoir des nouvelles, trouva contre l'ordinaire toutes les portes ouvertes et les valets éperdus. Il entra dans la chambre où, voyant de quoi il n'était que trop tardivement question, il courut au lit, prit la main de Monseigneur, lui parla de Dieu et, le voyant plein de connaissances, mais presque hors d'état de parler, il en tira ce qu'il put pour une confession. » Cependant, précise Saint-Simon, le roi sortait de table et pensa tomber à la renverse lorsque Fagon, se présentant à lui, lui cria tout troublé que tout était perdu. On peut juger quelle horreur saisit tout le monde en ce passage si subit d'une sécurité entière à l'extrémité la plus désespérée. Le roi, à peine à lui-même, prit à l'instant le chemin de l'appartement de Monseigneur. Il réprima très sèchement l'indiscret empressement de quelques courtisans à le retenir, disant qu'il voulait voir encore son fils et demandant s'il n'y avait plus de remède. Comme il était près d'entrer dans la chambre, Madame la princesse de Conti, qui avait eu le temps de courir chez Monseigneur dans ce court intervalle de la sortie de table, se présenta pour l'empêcher d'entrer. Elle osa même le repousser des mains et lui dit qu'il ne fallait plus désormais penser qu'à lui-même. Alors le roi se laissa aller sur un canapé qui se trouva à l'entrée. Il demandait des nouvelles à tout ce qui en sortait, sans que personne osât lui répondre. À ce moment, le grand dauphin, vous l'avez compris, n'a plus que quelques instants à vivre.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et aujourd'hui, Franck Ferrand nous conte la vie de celui qui fut le fils de Louis XIV et le père de Philippe V d'Espagne, le grand dauphin de France.
Nous avons quitté le grand dauphin à l'agonie, vous imaginez qu'à Meudon, chez lui, c'est la désolation, et très vite, la nouvelle gagne Versailles, où Saint-Simon, qui a toujours détesté le prince, il faut bien le dire, apprend la nouvelle comme tout un chacun. « Je trouvais en arrivant chez Madame la Duchesse de Berry, écrit-il, tout Versailles rassemblé, toutes les dames en déshabillé, la plupart prêtes à se mettre au lit, toutes les portes ouvertes et tout en trouble. Mon premier mouvement fut de m'informer à plus d'une fois, de ne croire qu'à peine au spectacle et aux paroles, ensuite de craindre trop peu de causes pour tant d'alarmes. Enfin, de retour sur moi-même, par la considération de la misère commune à tous les hommes, et que moi-même je me trouverais un jour aux portes de la mort. » La joie, néanmoins, perçait à travers les réflexions momentanées de religion et d'humanité par lesquelles j'essayais de me rappeler. Ma délivrance particulière me semblait si grande et si inespérée qu'il me semblait avec une évidence encore plus parfaite que la vérité, que l'État gagnait tout en une telle perte. Parmi ces pensées, je sentais malgré moi un reste de crainte que le malade en réchappât, et j'en avais une extrême honte. Et ça se comprend. Voilà pour l'invraisemblable méchanceté de Saint-Simon. Madame de Maintenon se montre de son côté plus sensible lorsqu'elle écrit ce qu'il se passe dans la chambre même du mourant. Olivier Chaline rapporte une relation qu'elle en fait à la princesse des Ursins. Ah, quel spectacle, madame, quand j'arrivais dans le grand cabinet de Monseigneur, le roi assis sur un lit de repos sans verser une larme, mais avec un frisson et un tremblement depuis les pieds jusqu'à la tête. Madame la duchesse se désespérant, madame la princesse de Conti pénétrée, tous les courtisans en silence, interrompus par des sanglots et par les cris qu'on entendait qui se faisaient dans la chambre à chaque moment qu'on croyait qu'il expirait. Les carrosses du roi vinrent, poursuit madame de Maintenon. J'avais fait avertir madame la duchesse de Bourgogne de se trouver sur le chemin du roi parce qu'il voulait venir avec lui à Marly. Louis XIV va donc quitter immédiatement Meudon dès que l'on comprend que son fils est perdu. Le roi de France ne peut pas rester dans la demeure où quelqu'un vient de mourir. Il n'a du reste pas de raison de rester. En approchant des cours de Versailles, rapporte Sourche, qui est un des grands mémorialistes du règne, le roi trouva la duchesse de Bourgogne qui venait au-devant de lui dans son carrosse avec quelques dames. Il s'arrêta un moment à lui parler pour lui apprendre cette triste nouvelle et ensuite il continua son chemin. Dans la nuit, il gagna Marly, où personne ne l'attendait à cette heure. Il faut vous dire qu'à Marly, ce jour-là, rien n'est prêt. On est à tâtons dans une semi-obscurité. On essaie de préparer la maison, de mettre du feu dans les cheminées. On s'embarrasse avec les clés qui ont été égarées par l'égarement des valets, nous dit madame de Maintenon. Les plus hardis de ce qui était dans le salon montrèrent peu à peu le nez dans l'antichambre. Et, poursuit Saint-Simon, de l'un à l'autre, tout ce qui était venu s'y présentait, poussé de curiosité et de désir de tâcher que leur empressement fût remarqué. Le roi, reculé en un coin, assis entre madame de Maintenon et les deux princesses, pleurait à longues reprises. Enfin, la chambre de madame de Maintenon fut ouverte, qui le délivra de cette importunité. Il y entra seul avec elle et y demeura encore une heure. Il alla ensuite se coucher, qu'il était près de 4 heures du matin. Louis XIV est en train de perdre son fils et c'est un des moments où la chronique le surprend le plus désemparé. Ce que le grand roi ne peut pas prévoir alors, c'est que ce deuil n'est que le premier d'une série incroyable. Le nouveau dauphin, duc de Bourgogne, et deux de ses fils suivront bientôt Monseigneur dans la tombe, faisant de ces quelques mois de 1711-1712 ce qu'Olivier Chaline appelle dans un beau livre réédité cet automne « l'année des quatre dauphins ». Olivier Chaline est avec nous dans ce studio pour parler de cette nuit terrible, de cette disparition désastreuse, mais aussi de la personnalité si méconnue du grand dauphin. Bonjour Olivier Chaline. On dit que Louis XIV avait des chagrins qui pouvaient être démonstratifs, mais qui étaient prompts à s'effacer. Au bout de 3 jours, il avait retrouvé sa parfaite contenance. Est-ce que ça a été le cas lorsqu'il a perdu son fils ?
Pas pour son fils et encore moins pour sa petite-fille par adoption, la femme du duc de Bourgogne, et pour le duc de Bourgogne lui-même.
C'est-à-dire qu'en fait, non seulement Monseigneur meurt, là, donc en 1711...
Et ce n'est hélas qu'un début, car beaucoup d'autres membres de la parenté du roi ont failli mourir dans ces mois redoutables, mais c'est surtout février 1712, on a 11 mois, dans laquelle la famille de France est proprement parlée dévastée. Et le tableau extraordinaire de la Wallace Collection que vous évoquiez tout à l'heure devient un grand vide.
C'est ça, c'est-à-dire qu'on avait Louis XIV assis, alors s'appuyant sur son dossier, le grand dauphin, donc lui meurt au printemps 1711.
Il n'est plus là.
Le duc de Bourgogne, son petit-fils aîné, meurt à son tour, donc en février 1712.
Le troisième dauphin, fils aîné du duc de Bourgogne, disparaît à son tour. Alors,
son
notre
petit frère
tableau,
aussi.
Et son petit frère, le futur Louis XV, a failli y rester. Mais alors, de notre tableau, il ne reste plus que Louis XIV et maman Ventadour.
La gouvernante. Est-ce qu'on peut dire que la dynastie était la dynastie des Bourbons, donc la famille de Louis XIV, était une des mieux assurées avant cette année 1711?
Avant, tout à fait. Et c'est une fierté extraordinaire parce que jamais roi de France n'a connu son arrière-petit-fils. C'est une fierté extraordinaire qui est celle de Louis XIV parce que au même moment les Habsbourg, on voit disparaître la branche aînée, celle d'Espagne, les Stuarts ont un avenir bien incertain, il y a une succession d'Angleterre. Donc les Bourbons sont d'une bonne santé et ont
presque insolent.
C'est presque insolent.
D'ailleurs, quand la duchesse de Bourgogne fait une fausse couche, on a l'anecdote de cette colère qui prend Louis XIV de voir la cour affligée. Et il dit, mais après tout, il y en a d'autres pour prendre
la place. Il y en a d'autres. Et c'était vrai à ce moment-là.
Il y avait même le deuxième frère du duc de Bourgogne, il s'appelait le duc de Berry, qui va mourir un peu plus tard.
Qui meurt en 1714, oui. Mais que Louis XIV enterrera aussi.
Donc il aura enterré son fils, bien entendu, tous ses petits, enfin pas tous ses petits-fils, mais deux de ses petits-fils, voilà, le troisième était sur le trône d'Espagne.
Sur le trône d'Espagne.
Et puis ses arrière-petits-fils aussi, sauf le petit Louis XV.
Il a fallu que celui que les femmes, et notamment Madame de Ventadour, mettent à l'abri des médecins en disant « Celui-là, vous nous le laissez, vous n'y touchez pas. » Et c'est lui qui assure l'avenir contre toute attente.
Avec vous, Olivier Chaline, nous allons revenir sur la personnalité tellement évanescente de ce personnage, de ce grand dauphin, fils unique, en tout cas fils né légitime de Louis XIV.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et la partie magazine, jusqu'à 14h, on continue de parler d'un personnage oublié de l'histoire, Franck Ferrand.
Nous allons donc revenir sur la personnalité de ce prince que tout le monde ignore plus ou moins, que l'histoire méprise, qu'on appelait Monseigneur à la cour et qui était donc le grand dauphin. Il bénéficiait de bien des titres et de bien des prédicats à sa naissance, ce fils unique de Louis XIV et de Marie-Thérèse d'Autriche.
On aurait bien pu croire que toutes les fées s'étaient penchées sur le berceau, comme dans un conte célèbre de la même époque.
En plus, il naît à la fin de l'année 1661, ce qui fait qu'on célèbre
de Toussaint,
le 350e anniversaire de sa naissance. Il naît le jour de la Toussaint à l'issue d'une année qui a vu son père prendre personnellement en main les rênes de l'État, puisque le cardinal Mazarin est mort au printemps et que le surintendant Fouquet a été arrêté à l'automne.
En surprenant tout le monde, Louis XIV décide de se passer de Premier ministre. Donc il va gouverner, le roi gouverne par lui-même. Il l'a fait ensuite inscrire dans la Galerie des Glaces. Et c'est dans ce contexte que naît pour la Toussaint, et le roi en sera extrêmement fier, ce qui est encore peu de choses à côté de c'est même plus de la fierté, c'est de la liesse qui est celle du monarque, qui est celle de toute la cour et de toute la France, on peut le dire, d'une manière absolument inouïe.
Ce sont des fêtes, des réjouissances infinies.
Voilà, 1682, la naissance de son petit-fils, le duc de Bourgogne. On avait l'impression d'être déjà dans l'exploit. Ouais. Alors, pour Monseigneur, le rôle est impossible à tenir. Être le fils de Louis XIV, c'est très difficile. Et finalement, il s'en est peut-être pas si mal sorti, sauf que, le destin lui a refusé d'être Louis XV. Et puis, par-dessus le marché, il y a la vindicte de Saint-Simon. C'est superbement écrit. C'est très largement injuste. Et ça, ne
ça
pas
fait du mal à
régné.
La mémoire. Ça.
Et voilà. Là, la mémoire est définitivement compromise.
Avoir contre soi le grand écrivain d'une époque, c'est jamais très bon.
N'avoir pas pu faire ses preuves en régnant et avoir contre soi un écrivain de la trempe de Saint-Simon, ça, on ne s'en remet pas.
Alors, l'enfance de Monseigneur a été bien triste, bien taciturne, il faut le dire. J'ai parlé de la sévérité de ses maîtres, tout de même, Montausier notamment.
On a voulu pour lui, de son père, la meilleure éducation possible. Parce qu'il faut être en quelque sorte omniscient, il faut avoir une éducation de la volonté, il faut être un gentilhomme accompli, il faut être un futur guerrier. Le cahier des charges est absolument accablant. Et les hommes qui sont choisis ne sont pas n'importe qui. Parce que le duc de Montausier, qui passe pour avoir inspiré le misanthrope de Molière, ce qui n'est évidemment pas très flatteur, est un personnage rude, qui n'hésite pas à user de la canne sur le fils du roi de France, ce qui mérite quand même d'être signalé. Mais c'est aussi, par le duc de Montausier, tout l'héritage de l'hôtel de Rambouillet. C'est-à-dire l'idéal de l'honnête homme, à une époque où la cour n'était pas encore bien policée, et même encore dans les années 1660, on y voit plein de spectacles qui ne sont pas faits pour inspirer, disons, l'honnêteté, et voilà, pour édifier, pour faire un bon chrétien à la cour. La cour n'est pas sainte, on l'a bien compris. Et puis, il y a le président de Périgny, remplacé ensuite par Bossuet, tout ça sont des gens de très grande valeur morale et intellectuelle.
Ce qui veut dire que l'éducation du prince, pour avoir été sévère, a sans doute été de qualité.
Elle a été de qualité. Alors, il était un enfant, on pourrait dire, qui apprenait mal.
Ah, c'est ça.
Mais, cela dit, on ne sait pas, en fait, ce qu'il en a retiré au juste. Parce qu'il affectait, manifestement, de prendre de la distance, une fois devenu adulte, par rapport à la culture très livresque qu'on a voulu lui inculquer. Or, il était comme son père. Louis XIV n'avait pas une culture livresque. Seulement, il a été formé auprès de gens aussi extraordinaires que Mazarin ou Anne d'Autriche. Le grand dauphin, il a été formé auprès de son père. Et il en a retiré, ils se sont dit des choses, et nous ne le savons pas, car il y a un point qui était peut-être dans son hérédité, mais que le grand dauphin a très bien retenu des leçons paternelles, c'est le secret pour tout ce qui a trait aux affaires de l'État. Ça reste entre son père et lui, et nous n'en saurons jamais rien.
Il y avait une notion très répandue au XVIIe siècle, qui était la notion de convenance. On peut dire que Monseigneur s'inscrit absolument dans la convenance. Voilà quelqu'un, on a beau dire du mal de lui, se moquer parfois de son allure un peu lourdaude, voilà quelqu'un qui n'a jamais commis un faux pas, qui ne fait pas de gaffe, qui est toujours exactement à sa place, qui présente le mérite de ne jamais prêter au ridicule.
Absolument. Et nous voyons aujourd'hui la difficulté de la convenance à la cour pour, dans des pays étrangers, proches et amis du nôtre, dans lesquels nous voyons des personnes que leur naissance ne destinait pas à ces places-là et qui, parfois, y réussissent fort bien, dans d'autres cas, ont plus de difficultés. Le grand dauphin n'a pas connu ce genre de faux pas et ça, on l'oublie. Parce que ça s'est bien passé, donc il n'y a pas un moment... où on a vu par le passé dans l'histoire de France des dauphins qui prenaient les armes contre leur père ou contre leur mère. Rien de tel. En fait, il admire son père.
Et il a une telle admiration pour son père que c'est une admiration qui lui a tendance aussi quand même à l'inhiber.
À ça l'inhibe. Et c'est quelqu'un, on le voit lorsqu'il est chargé à partir de 1688 de commander une armée. Un futur roi doit avoir une formation de guerrier, il doit avoir l'exercice du commandement. Il est réussi pas mal. Et c'est quelqu'un, pour autant qu'on le sache, qui a pas mal d'humilité. Il sait que le métier de général ne s'apprend pas d'un coup, même quand on est le fils de roi, qu'il doit écouter. Il a peur de mal faire. Bon, tout ça, on le devine à la marge, de manière très ténue. Mais c'est quand même un très bon signe de quelqu'un qui, devant des fonctions imposantes et nouvelles pour lui... ne prétend pas tout savoir parce que c'est moi.
Quel père, quel mari, quel amant, quel collectionneur était-il ? Nous voyons tout ça avec vous dans un instant, Olivier Chaline.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et jusqu'à 14h, la partie magazine. Franck Ferrand reçoit aujourd'hui Olivier Chaline, historien, professeur d'histoire moderne à l'université de Paris 4, la Sorbonne.
Et oui, nous sommes en compagnie d'Olivier Chaline, auteur notamment de l'année des quatre dauphins qui vient d'être réédité chez Flammarion dans la collection de poche Champs Histoire. Ce prince tout à fait digne, ce bon militaire, nous disiez-vous à l'instant, néanmoins bien inhibé par la figure paternelle et qui ne serait pas inhibé en étant le fils de Louis XIV, fils unique, qui plus est, il aurait eu des petits frères ou des sœurs.
Il en a eu, mais ils sont morts le meilleur des cas, trois ou quatre ans, ils ne sont pas allés au-delà.
Quel père lui-même était-il ? Car, alors, d'abord, un mot sur sa femme. J'ai été sévère tout à l'heure avec Marie-Anne-Victor de Bavière.
C'est une femme très pieuse, très effacée, comme on en...
Alors là, une vraie princesse.
Une vraie princesse. Le jour et la nuit, avec le tempérament du grand dauphin, qui est affable, pas du tout intimidant, comme son père, ou d'ailleurs comme l'était la défunte dauphine Bavière.
Ce qui fait peut-être que le peuple l'aimait tant, c'est qu'il était très accessible, en quelque sorte.
Il était très accessible. Si les femmes de la halle, quand il est malade, se précipitent pour l'embrasser, le couvrir de cadeaux, faire dire des tédéums, bon, ça veut dire quelque chose. Et ça... indique un point tout à fait important, parce que on dit Louis XIV n'aimait pas Paris, Louis XIV a quitté Paris, ne voulait plus y aller. Oui, c'est vrai qu'à un moment donné, la présence de Louis XIV à Paris se raréfie de manière très sensible. Seulement, ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il y a Monseigneur à Paris. Et Monseigneur, on le voit, on peut lui parler, il est facile d'accès.
Il est un peu le représentant du roi à Paris, en fait, auprès de cette population très compliquée. Les rois se méfient toujours beaucoup des Parisiens, par définition.
Voilà, mais avec Monseigneur, on le voit à l'opéra, on le voit du côté du palais royal, il se sent chez lui à Paris.
Ce grand dauphin, ce monseigneur dont nos auditeurs entendent souvent parler, parce que quand vous visitez un monument, quand vous allez voir un théâtre, etc., on vous parle souvent de monseigneur. Il faut l'imaginer peut-être pour ceux qui nous rejoindraient en cours, un personnage avec une énorme corpulence, toujours cette très grande perruque blanche ou grise.
Un personnage massif.
Un peu poupin quand même, il faut bien le dire.
Voilà, avec des traits poupins, mais qui a repris... C'est le digne fils de sa mère, à certains égards. Sauf que ce personnage, on ne l'imagine pas comme étant d'une robustesse physique. C'est un chasseur, notamment un chasseur de loups absolument extraordinaire.
Infatigable.
Cette époque est celle du grand méchant loup.
Eh oui.
Celle des contes de Perrault.
Bien sûr, oui.
Or, On
chasse le loup tous azimuts.
On chasse le loup tous azimuts parce que le loup est présent en nombre aux portes de Paris. Le grand dauphin chasse le loup au bois de Boulogne.
Alors, ce dauphin fait tout à fait bien ses dévotions, hein, on le voit très assidu.
Il a été instruit à être, je dirais, un chrétien équilibré, vous voyez, ni bigot ni libertin.
Il chasse beaucoup, on vient de le voir. De temps en temps, il participe à quelques campagnes militaires. Et puis surtout, il collectionne les objets d'art.
C'est un homme de goût. Louis XIV, on l'a vu, n'avait pas de culture livresque, mais Mazarin lui avait fait comprendre ce que c'était que le beau. Je pense qu'il a dû se passer quelque chose, nous ne savons pas le pourquoi et le comment, mais un peu du même ordre entre le grand dauphin et son père. Et là, il y a une véritable émulation. C'est sans doute le seul domaine sur lequel le grand dauphin se permet d'essayer de concurrencer son père. Son père le laisse faire avec manifestement satisfaction. Alors, il collectionne des quantités d'objets précieux, notamment les joyaux, notamment les pierres d'agate. Et puis, le chef-d'œuvre, en quelque sorte, du grand dauphin, mais aujourd'hui il faut un peu d'imagination pour le retrouver, c'est le château de Meudon qu'il obtient en 1695 de la veuve de Louvois. Et il va en faire quelque chose de vraiment imposant. Alors aujourd'hui, on a un peu de mal à se représenter les choses, mais l'avenue du château à Meudon est un héritage de l'époque Louvois. Ça donne quand même un peu idée de la grandeur des choses.
Oui, c'est grandiose.
C'est grandiose. Et puis, c'est relié au parc de Versailles. Via Chaville.
Oui, c'est tout près, tout ça.
C'est tout près. Alors, le grand dauphin a fait réaménager le château vieux de Meudon.
Qui datait du XVIe siècle.
Du XVIe siècle, repris au XVIIe. Il fait construire un nouveau château, le château neuf, entre 1706 et 1709, dont il ne reste plus qu'un élément en guise d'observatoire.
C'est l'observatoire aujourd'hui.
Et là, c'est tout ce qui reste, avec les terrasses et puis les allées. Mais on peut comprendre qu'il y a vraiment eu là quelque chose d'important. Et aussi, ce domaine, il a été aménagé, bon, Jules Ardoin-Mansart y a mis la patte, mais surtout Louis XIV lui-même a supervisé les travaux à côté de son fils. Ça, apparemment, il était content de le faire.
Et donc on peut parler d'un grand mécène.
C'est un grand mécène parce que quelqu'un qui protège Boulle, Bérin, Coypel.
Qui connaît tout ça très très finement.
Très finement. Et les historiens de l'art considèrent que l'esthétique, que le style régence apparaît en fait déjà à Meudon avec le grand dauphin.
C'est déjà le style de Monseigneur. On dit que ses appartements au rez-de-chaussée du corps central du château de Versailles étaient les plus extraordinaires.
Les plus extraordinaires.
Et les ambassadeurs, ce qui énervait sans doute un peu Louis XIV, demandaient toujours.
Oui, c'est ça. Ils voulaient voir, mais enfin, comme si au-dessus, ça n'était pas beau à regarder.
Ça devait énerver le père, ça que son fils.
Ça peut-être un peu à Bray. Bon, peut-être un peu de fierté aussi, quand même, avec l'idée que, ben, déjà, par cet élément-là qu'on pouvait montrer, la relève serait assurée.
C'est ça.
Et quand il envoie le grand dauphin commander l'armée d'Allemagne en 1688, il lui dit de montrer à l'Europe son mérite pour que le jour où le roi ne sera plus là, on ne s'en rende pas compte.
Donc, il y a bien chez Louis XIV, sinon l'obsession, du moins le souci permanent de sa succession.
Alors, Louis XIV ne s'est pas pressé pour considérer qu'il avait le temps pour le former. Il attend 1688 pour le faire entrer au Conseil.
En 88, il a 27 ans quand même.
Voilà, avec voix délibérative. Bon, le dauphin est déjà là, mais il n'a pas le droit de parler. Donc ensuite, dans un deuxième temps, il aura le droit de donner son avis.
Il va jouer un rôle dans la succession d'Espagne.
Il y a eu des plans de partage.
On est là donc en 1700.
On devait donner un morceau d'Italie au dauphin, ce qui était quand même remodeler l'Europe. Mais surtout, en 1700, quand Charles II d'Espagne dit « donnez tout, pas de partage, donnez tout » à un petit-fils de Louis XIV, le deuxième fils du grand dauphin, le grand dauphin s'efface lui-même, mais insiste au Conseil. Le matin, il a chassé le loup. Ensuite, il va au Conseil. Il dit il faut cette succession pour le duc d'Anjou, son deuxième fils. Et lorsque, pendant la guerre de succession d'Espagne, on est sur le point de tout perdre contre l'avis du duc de Bourgogne, son fils, et les relations père-fils, là, sont délicates. Il insiste, il faut maintenir des troupes, et le grand dauphin a raison. Il fait revenir en Espagne le duc de Vendôme, avec qui le duc de Bourgogne est fâché. Il le fait revenir en Espagne et 1710, c'est le tournant de la guerre. Le moment où la victoire bourbonienne se dessine en Espagne et elle est là en partie grâce à l'insistance de Monseigneur. Et ça, Les résultats, nous les voyons toujours aujourd'hui. Juan Carlos Ier, roi d'Espagne, à Madrid.
Descendant direct de Louis XIV, évidemment.
Descendant direct de Louis XIV.
Donc, vous nous montrez un personnage qui non seulement a une vision politique, une certaine fermeté, malgré cette timidité face à son père, et aussi un vrai amour paternel. Voilà la réponse à la question que j'avais commencé de poser il y a quelques minutes. Il a été un bon père. Un fils difficile, mais un bon
père. Un fils difficile. Peut-être un meilleur père avec son deuxième fils
Anjou,
qu'avec... Alors là aussi, la situation est impossible parce que Saint-Simon a un très bon exemple. Beaucoup de gens considèrent que Monseigneur, ce ne sera au mieux qu'une parenthèse, que le personnage qui incarne tous les espoirs de Saint-Simon et d'autres, c'est le duc de Bourgogne. Louis XIV aussi a fait en sorte que de former aussi le duc de Bourgogne. On pensait à tous les espoirs de Fénelon et d'autres. Alors évidemment, pour Monseigneur, c'est... Bon, il y a des choses qu'on veut bien accepter de son père. Les accepter de son fils aîné, c'est quand même moins simple.
Vous parliez tout à l'heure de l'Angleterre. Il me fait un peu penser au prince Charles, finalement, votre grand dauphin.
Il y aurait quelques éléments communs.
Olivier Chaline, l'année des quatre dauphins chez Champ Histoire, donc c'est édité par Flammarion. Merci beaucoup de nous avoir fait revivre ce personnage assez oublié de l'histoire. Et pour tous ceux qui vont aller se promener là pendant le week-end dans la forêt de Meudon,
eh bien, par exemple,
ils penseront, j'espère, à Monseigneur qui était tellement affable. Bonjour Elena.
Bonjour Franck, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, un sujet délicat, un sujet douloureux, un sujet presque tabou. Nous allons parler de mort et d'argent. Comment organiser ses obsèques ou celles d'un proche? C'est le sujet du jour et les experts européens vous accompagnent jusqu'à 15h30.
Sujet très important,
oui,
et très utile, je crois. Merci
je
beaucoup
aussi.
Elena, et nous nous retrouvons lundi.